Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont se reconnaître là-dedans. J'ai joué avec la peur. Quand je te dis jouer avec la peur, c'est la peur de la pauvreté, la peur de la blessure, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas améliorer les conditions de vie de ma famille, parce que le football a été mon échappatoire, mon ascenseur social.
Salut, moi c'est Augustin. On se retrouve avec Abdou Diallo sur la chaîne Azak pour une nouvelle série de podcasts dans laquelle Abdou va se confier lors d'un appel vidéo entre potes d'enfance. On discute de plein de sujets liés à la réalité du métier de footballeur. On parle d'efforts, d'engagement, de santé mentale, d'ouverture, de joie et de doute. On prend le temps de l'introspection et de la prise de recul. Le format s'appelle Diallo en deux mots. Bienvenue sur notre nouveau podcast. Bon, salut Abdou.
Salut, comment tu vas?
Ça va et toi?
Ça va, tranquillement.
En forme.
Prêt pour la première.
On s'appelle aujourd'hui, on est le 2 septembre, parce que je voulais discuter avec toi de tes récentes aventures sur le marché des transferts, voilà, que tu as vécu ces dernières semaines, et plus particulièrement ce transfert au Qatar, dans le club d'Al Arabi. Tu as signé un contrat de 4 ans, un contrat qui, de mon point de vue, dépasse un peu ta carrière de footballeur, parce qu'il dévoile un peu de nouveaux projets qui concernent le Sénégal, voilà, sur lesquels on va aussi revenir lors de cet appel. J'aimerais dans un premier temps que tu me racontes ce passage obligé de la vie de footballeur pro, qu'est le mercato et ses incertitudes. Voilà, comment toi tu as vécu ce mercato personnellement, alors que tu étais de retour d'un prêt à Leipzig et que tu étais de retour au Paris Saint-Germain.
Ouais, c'est passage obligatoire. Des fois, c'est agréable, positif. Des fois, ça ne l'est pas. Bon, pour moi, le dénouement, il est très, très positif. J'annonce la couleur directe. Ce n'est pas la première fois que je suis un acteur d'un mercato. J'ai fait pas mal de clubs dans ma carrière. Il me semble que j'en ai fait 6, c'est ça? Monaco, Zult, Mayence, Dortmund, Leipzig, PSG. Maintenant, Al Arabi, donc c'est le 7e. Donc ouais, c'est un passage qui peut être stressant, mais qui peut aussi être déterminant, tu vois, dans une carrière. Donc faut pas se tromper. Mais quand tu enchaînes les transferts, bah tu prends en expérience, tu vois les choses un peu différemment. Et bon, je pense qu'on va développer ça tout au long du podcast, mais ouais, pas mal de choses à en retirer.
Il y a eu une nouveauté aussi lors de ce mercato pour toi, c'est qu'il y a eu un changement au niveau des personnes qui te représentent. Est-ce que tu peux un peu me parler de ce changement?
Non, je pense qu'il était temps pour moi d'avoir un peu de changement dans ma carrière. Ça faisait 8 ans que j'étais avec les mêmes représentants. Donc voilà, j'ai quitté avec respect mon ancien représentant. Mais voilà, toute bonne chose a une fin et je sentais que c'était le moment pour moi d'avoir autre chose, d'être organisé différemment, d'avoir d'autres interlocuteurs. Même peut-être pour une certaine remise en question et surtout une responsabilisation. J'arrive à un âge où je sens que je veux prendre les choses un peu plus en main, je veux avoir un peu plus mon avis sur les choses, je veux toucher un petit peu à tout, mettre mon nez dans tout et le changement était nécessaire.
On va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi rejoindre la Qatar Stars League et Al Arabi cet été?
Alors, ce n'était pas du tout le projet du début de Mercato, si je suis totalement honnête avec toi. Je m'étais mis comme priorité de continuer en Europe, dans les 5 grands championnats, même si je pense qu'en Allemagne, j'avais un petit peu fait le tour parce que le Bayern n'allait pas être d'actualité. J'avais déjà goûté à Dortmund, j'avais déjà goûté à Leipzig. Il y a d'autres clubs très intéressants, mais voilà, je sentais que je voulais voir autre chose. La France, je ne me voyais pas aller ailleurs qu'à Paris, je te dis la vérité. J'ai fait Monaco, qui est dans mon cœur. J'ai fait le PSG, qui est dans mon cœur. Et ça avait du sens pour moi de me limiter en France à ces deux clubs-là. Pourtant, j'ai eu quelques approches qui étaient intéressantes. Mais voilà, ça ne faisait pas sens. Donc, sorti de la France et de l'Allemagne, il restait l'Italie, l'Espagne ou l'Angleterre. Pareil, il y a eu quelques approches, mais j'ai pas eu ce truc où je me disais il faut absolument que j'y aille. Et comme je te disais, avec l'âge, avec l'expérience, bah, tu comprends qu'il faut t'écouter. Il faut t'écouter parce que t'as qu'une carrière. T'as qu'une carrière, c'est la tienne. Et ouais, tu ne peux pas rattraper le temps et choisir, des fois, c'est renoncer. Donc, il faut être prêt à le faire. Et c'est ce que j'ai fait parce que je n'ai pas senti ce truc de OK, c'est le projet, il faut absolument que j'y aille. Donc, je ne me suis pas forcé la main. Donc voilà, ça c'était la priorité. Par la suite, il y avait l'Arabie Saoudite qui était un acteur phare du mercato. Donc forcément, j'ai été attentif à ce qui s'y passait. J'ai eu de grosses, grosses et sérieuses discussions avec des clubs, avec un club en particulier, saoudien, qui n'ont pas abouti. J'ai été très dur, très, très dur en négociation, j'ai rien lâché. Mais le Qatar s'est présenté. S'est présenté un peu ouais, comme un cheveu sur la soupe. Je m'étais pas du tout projeté là-bas parce qu'ils n'avaient pas été aussi actifs sur le mercato que les Européens ou les Saoudiens. Et finalement, quand ils arrivent pas pour rien. Ils arrivent pas pour rien. Et puis, je considère qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et j'ai réussi à avoir tout ce que j'espérais et à avoir ce sentiment de ouais, c'est là-bas que je dois être. C'est là-bas que je dois être. Il y a mon petit frère qui avait signé un mois plus tôt là-bas. C'est un argument en plus et un sacré argument en plus. Donc, non, très content de la finalité de ce transfert, de ce deal-là. Donc, here we go.
Surtout que j'imagine qu'Ibrahima, qui jouait en Angleterre, en Première Ligue, à Southampton, avec les calendriers des championnats européens, ça devait être compliqué de le voir finalement ces dernières années.
Bah pour tout dire, l'année dernière, je ne l'ai pas vu.
Ah ouais.
L'année dernière, je ne l'ai pas vu du tout. Et bon, lui est père de famille, il a deux enfants, il attend un troisième. Et c'est sa première fille. Je l'ai vu trois fois, je crois, dans ma vie. Trois fois. Et depuis que je suis au Qatar, je l'ai vu plus que trois fois, tu vois. Donc, ouais, ça change la vie. Ça change la vie. Et pour le coup, à toi qui me connais très bien, il y a des choses qui sont plus importantes que le football dans la vie. Il faut dire la vérité. Et ça en fait partie. Et je suis très, très content d'avoir ce rapprochement familial. Vraiment, je n'avais jamais espéré obtenir cela en carrière. Je m'étais convaincu que tu vas devoir serrer les dents et quand tu auras fini, tu pourras profiter. Et finalement, non.
Ah ouais, je comprends, tu vas concilier deux choses en fait finalement que t'aimes,
Ah oui.
alors que peut-être que parfois tu étais un peu trop dans la notion du sacrifice. Oui, il y a des choses beaucoup plus importantes dans le football. Tu as toujours eu cette vision-là, mais est-ce qu'elle change avec l'âge qui avance? Et bah, ces choses plus importantes dans le football, elles étaient encore plus importantes maintenant, aujourd'hui.
Ouais, je te dis la vérité, l'âge, ça joue. Parce que tu te dis, ben en fait, tu sais, ma carrière défile, mais je pourrais pas rattraper ce temps-là, tu vois. Il y a aussi une facette de ma personnalité qui évolue. C'est-à-dire que pendant longtemps, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont se reconnaître là-dedans, j'ai joué avec la peur. Quand je te dis jouer avec la peur, c'est la peur de la pauvreté, la peur de la blessure. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas améliorer les conditions de vie de ma famille parce que le football a été mon échappatoire, mon ascenseur social et mon opportunité pour améliorer mon train de vie et ouais, de m'élever, tout simplement. C'était moyen de m'élever. Mais quand tu as un seul moyen, ben, ça tient à peu de choses en fait. Tu vois, ça tient à peu de choses. Tu peux jouer avec la peur. Tu vois, moi, je suis premier garçon, issu d'une famille avec des parents divorcés. Et dans notre culture, c'est important, tu vois. J'ai une place, j'ai un rang à tenir et j'ai des responsabilités. Donc, pendant longtemps, j'ai joué avec cette peur-là.
Toi, t'as
J'ai
peur.
un ami au centre.
Je te coupe, mais toi, t'as peur parce que franchement, c'est Abdou, c'est
Ouais.
le joueur qui joue sans pression pour moi.
Ce n'est pas le jeu en lui-même qui me fait peur. C'est l'enjeu. C'est l'enjeu derrière, tu vois. Jouer au foot, c'est quelque chose que je fais depuis tout petit. Donc non, je n'ai pas peur de ça. Tu m'envoies sur un terrain, il n'y a pas de souci. Mais tu ne contrôles pas la blessure, tu ne contrôles pas les méformes, tu contrôles très peu de choses, tu vois. Si ça se résumait à venir kiffer et jouer. Ce serait simple. Mais je serais un footballeur du dimanche. Quand tu regardes à la télé, tu te dis, ouais, c'est beau, c'est strass, c'est paillettes, ça donne envie, tu vois. Mais à côté de ça change la vie. Et quand tu pars de tout en bas, si tu restes en bas, entre guillemets, alors c'est peut-être fou ce que je vais dire, mais t'as rien à perdre. Et quand tu passes de cette situation de j'ai rien à perdre et je m'éclate et je fais mes trucs et machin, à une situation de ouf, là j'ai un truc à perdre. Là j'ai un truc à aller chercher. Là j'ai un truc entre mes mains qui brûle en fait, mais qui ne brûle pas que mes mains à moi. Tu vois, je ne peux pas être dans l'égoïsme et penser qu'à ma tronche et à mon plaisir. Et non, c'est pas comme ça la vie. Donc oui, tu peux être dans un truc où tu joues cul serré, avec la peur de ne pas y arriver, de devoir affronter le regard des gens, si ça échoue, hein, de devoir trouver une autre solution alors que tu n'en as pas concrètement. Tu vois. Donc avec l'âge et... Dieu merci, avec la réussite, ben tu te détends un peu. Pas dans le sens où tu te relâches, mais tu te dis, OK, mon gars, faut pas que tu t'oublies non plus. Faut pas qu'à force de penser aux autres, d'avoir peur pour les autres, d'avoir des responsabilités vis-à-vis des autres, tu t'oublies. Tu vois? Et je suis un petit peu dans cette phase-là où je me dis, voilà, faut pas que je m'oublie, faut peut-être que je me retrouve, parce que pendant un temps, je me suis peut-être oublié aussi. Je suis peut-être déjà oublié, en vrai. Alors, j'ai une certaine éducation, j'ai, je pense en tout cas, certaines valeurs qui font que toutes ces choses qui me tiennent à cœur à titre personnel vont aussi dans l'intérêt collectif de mes proches. Je pense pas avoir perdu la tête là-dessus. Je pense que des fois, c'est important de savoir se recentrer et se donner un petit peu d'importance.
Mais ça se sent, moi, en tant qu'ami, ça se sent que tu es dans cette période de conscience de soi, de conscience de toi, et que ce transfert a du sens à ce niveau-là, en fait,
Ouais,
aujourd'hui.
clairement, clairement, clairement.
On va revenir sur ce transfert pour parler peut-être de l'aspect football. Voilà, aujourd'hui, tu as 27 ans. Certains aussi disent et peuvent dire que tu avais encore devant toi des belles années en Europe, notamment les 3 prochaines, tu vois, ou les 4 prochaines. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ça?
Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je suis dans la force de l'âge. C'est vrai que j'aurais pu largement, mais très très largement, continuer en Europe. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, tu vois. Et je t'ai dit, c'était ma priorité du début de Mercato. Mais maintenant, la vie est faite de choix. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, choisir, c'est renoncer. Dans le foot, pendant longtemps, et je pense que c'est encore un petit peu le cas, on est eurocentré. Alors, il y a des raisons qui sont normales, c'est-à-dire que le football européen aujourd'hui est le football dominant. Le football européen a les 5 grands championnats. Le football européen a la Ligue des Champions, qui est la compétition la plus...
Mise en lumière, la plus
Voilà, la plus grande compétition de club. Néanmoins, je ne suis pas euro-centré. Il y a une vie en dehors de l'Europe. Il y a une vie en dehors des 5 grands championnats. Il y a de la passion, il y a de la ferveur, il y a d'autres joueurs qui se donnent à fond. Donc oui, je pouvais continuer. Oui, j'avais encore largement le niveau, même pour des clubs européens. Clairement, Ligue des Champions, à la limite Europa League, mais en vrai, moi, c'était la Ligue des Champions. Ça fait 8 ans que je participe à la Ligue des Champions. J'ai toujours passé les poules. Tu sais, il n'y a pas de... J'ai fait une finale, 2 demi-finales. Donc, j'avais le niveau. Je te dis la vérité, l'expérience à Leipzig où je ne me suis pas du tout écouté. Alors, il n'y a pas eu que du négatif, attention. Hein. J'ai rencontré des gens super. J'ai gagné la Coupe d'Allemagne. Donc, encore une fois, pas de hasard. Je n'avais pas pris de titre. J'étais très proche avec Dortmund de prendre la Bundesliga. Et c'est peut-être le plus gros regret de ma carrière. Je suis retourné à Leipzig, j'ai pris une Coupe d'Allemagne. Mais je ne me suis pas écouté. Et je l'ai là, tu vois, de ne pas m'être écouté. Parce que une fois que tu arrives sur place, ben oui, il y a la réalité de ton taf. Et quand tu es là, mais c'est vraiment parce que il faut jouer pour la Coupe du Monde et nanana. Et ouais, et une fois que la Coupe du Monde est passée, on fait quoi? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que j'ai forcé sur mon genou pendant la Coupe du Monde. Donc, je ne me suis pas du tout, du tout, du tout arrangé. Derrière, ça découle sur une blessure. Un mec prend la place. Et quand tu reviens, ben, tu es venu en prêt parce que tu es arrivé dernier jour de mercato. Et de toute façon, comme tu as eu mal au genou, ben, on ne va pas lever l'option alors qu'on voulait la lever avant la Coupe du Monde. Et boum, 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 tu joues plus. Et tu te heurtes au football business, tu vois. Parce que le niveau pour jouer, tu l'as. C'est, tu le vois tous les jours à l'entraînement que tu l'as. C'est pas un problème. Et c'est pour ça que tu as eu beaucoup de temps de jeu en première partie de saison. Mais t'es pas venu dans les bonnes conditions. Est-ce que je vais blâmer quelqu'un d'autre? Non, je me blâme moi. Et c'est pour ça que derrière, je prends des décisions aussi. J'ai fait cette erreur, je le sais. Ok, maintenant, comment on rectifie le tir?
Je voulais aussi te poser une question par rapport à la sélection sénégalaise. Et en ce moment, il y a toutes les conférences de presse des sélectionneurs qui dévoilent leur liste pour septembre. La question est posée quasiment à tous les sélectionneurs en conf de presse à propos voilà, de ces joueurs partis dans le golf cet été. Voilà, est-ce qu'ils restent sélectionnables? Est-ce qu'ils restent compétitifs? Tu viens tout juste d'être convoqué dans la liste d'Aliou Cissé pour le match contre l'Algérie début septembre. Comment toi, tu vois les choses?
Moi, je les vois d'une manière super positive. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de temps de jeu. Ce temps de jeu, je vais l'avoir. Tu sais, la CAN qu'on a gagnée, je suis arrivé avec peu de minutes finalement dans les jambes. Donc, je n'avais pas des jambes de feu. J'espère avoir de la confiance. Donc, je suis très, très positif par rapport à ça, tu vois. Maintenant, encore une fois, évidemment qu'il y aura du scepticisme. Mais j'y suis préparé, j'y suis prêt à l'assumer. Évidemment que certaines personnes voudront dévaloriser mes performances. Mais ça fait partie du jeu. Moi, mon focus, il est sur, et c'est ce que je fais depuis le début, et c'est quand je te parlais du choix de Leipzig, c'était orienté sélection. Je ne suis pas parti à Leipzig pour Leipzig, en vrai. Avec tout le respect que je dois à ce club et que je remercie de m'avoir accueilli, pardon. Le choix, il était orienté sélection. J'ai sacrifié pour la sélection, entre guillemets, une année de carrière. Et c'est quelque chose que je referais s'il fallait le refaire. Quand je te parle de refaire, c'est des sacrifices. Parce que les plus beaux souvenirs que j'ai de carrière, ils sont en sélection, en vrai. Donc, je vais continuer à me sacrifier, à me donner à fond, à faire tout ce qu'il faut. Ça, il n'y a aucun doute. Tous les gens qui ont suivi un petit peu mon parcours en sélection, je pense qu'ils ont vu ça en moi. Parce que c'est sincère, c'est honnête. Et dans tous les cas, je préfère que le Sénégal gagne, peu importe la manière et peu importe les hommes. Moi, je suis au service de la sélection. Et j'espère que la sélection voudra encore de mes services.
De manière générale, ce mercato, il a été marqué par un phénomène, le départ de nombreux joueurs et pas mal de grands noms du football hein, dans le golf et principalement en Arabie Saoudite. Toi, quelle est ton analyse de ce phénomène?
Je pense qu'il y a plusieurs façons de lire, il y a plusieurs grilles de lecture. T'en as, c'est purement pécunier. Et très honnêtement, il n'y a aucun mal à ça. Les mecs, ils travaillent, ils ont une meilleure offre d'emploi, ils l'acceptent, basta. D'autant plus que, à part pour les joueurs libres, il y a toujours trois parties. C'est-à-dire que le club européen, disons, accepte de faire du business avec le club du golf. Donc, de la même manière que le joueur accepte d'aller y jouer, le club accepte de faire du business et accepte de vendre, en fait, au golf. Donc, je pense que ça arrange toutes les parties. T'en as, comme pour moi, où c'est certes pécunier parce que c'est une meilleure offre, mais aussi un choix de vie. Comme je te dis, j'ai le rapprochement familial. Je suis dans un pays où la pratique de ma religion m'est extrêmement facilitée. Là où ben, peut-être que des fois en Europe, sur certains points, je pouvais me sentir étrange ou en tout cas différent. C'est une réalité, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Ben, là-bas, je suis juste lambda. Tu vois, je suis juste lambda. Et ça, c'est un vrai, vrai plaisir. Et c'est quelque chose que j'avais envie d'expérimenter. Parce que je suis quelqu'un de curieux et j'aime faire des choses en dehors. Aujourd'hui, je m'entraîne en soirée. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va dormir jusqu'à 13, 14 heures et manger et aller à l'entraînement. Non, je vais continuer à me lever tôt et je vais investir sur moi-même, je vais me développer. L'idée, c'est de passer des diplômes, d'apprendre des langues, d'avoir un impact social. C'est tout ça. Et aujourd'hui, tout est réuni. Comme disait Hassan, donc mon représentant, j'ai le full package pour tirer le meilleur de moi-même.
Bah parle-moi un peu de ce full package alors dont tu viens de parler. Quel diplôme tu veux passer?
Alors, au niveau des diplômes, il faut savoir que le Qatar déjà est un pays d'excellence en termes d'éducation. Un pays d'excellence, ils ont ramené une grosse partie des plus grosses universités mondiales sur place, dont HEC Paris. Donc, tu peux avoir des cursus accélérés pour avoir n'importe quel diplôme. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est quelque chose d'ouvert. Il y a la partie foot avec l'AFC, qui est un diplôme de coaching, donc qui peut se passer en un an. Donc, j'aimerais, moi, l'obtenir. Et je crois qu'avec ce diplôme, je peux même prendre la suite d'Aliou Cissé. Mais non, pour être sérieux, c'est un diplôme que, bah, une fois que tu l'as en fait. Tu vois. La seule chose que tu peux pas faire, c'est entraîner dans les grands championnats européens où il te faut des équivalences. Mais tu as déjà une base. En gros, j'aimerais avoir un 360 sur le foot. Donc, j'aimerais avoir mon expérience de joueur, mon diplôme d'entraîneur et pourquoi pas une expérience. J'aimerais avoir du management. Et pourquoi pas, mais on verra si j'arrive à aller jusque-là, hein. En tout cas, je l'espère, faire des études dans le business, tout simplement. Business school.
Alors, coaching, ça t'intéresse. Alors, ça, c'est nouveau. Je n'étais pas au courant.
Je ne me vois pas forcément entraîneur dans un club qui joue tous les 3 jours, etc. C'est un sacré rythme. Donc aujourd'hui, j'ai du mal à me projeter. Mais je connais personne qui a regretté d'avoir des diplômes. Et un rythme d'un club qui joue toutes les semaines ou d'une sélection, c'est déjà plus en accord avec la vie que j'aimerais mener, tu vois.
Ouais, t'as vraiment envie d'être touche à tout, ça te ressemble énormément, et de te laisser toutes les opportunités en fait.
Oui, et je suis curieux et j'arrive à un âge où je veux mettre mon nez dans tout. Je veux tout comprendre, je veux tout maîtriser, je veux tout savoir. Et je pense que c'est important. Je pense que même chaque footballeur devrait vouloir comprendre le business dans lequel il est, en fait.
Donc parle-moi maintenant de enfin, ce projet de création, hein, je crois, de fondation à Dakar et du développement voilà, de liens, de connexion entre le Sénégal et le Qatar que tu as dealé
Ouais.
dans ton contrat.
Alors, bah, ça fait maintenant 2 ans et demi, je crois. Ouais, 2 ans et demi que je suis en sélection. Ça fait 4 ans que j'ai mis pour la première fois un pied au Sénégal et j'ai eu beaucoup d'observations. Je suis d'abord venu pour connaître, pour comprendre. Je savais que je faisais partie de ce peuple-là, mais je n'avais que trop peu de savoir concernant ma communauté, tu vois. Et je pense que il y a des choses que je peux commencer à faire. Des choses que je peux commencer à faire. Et la première chose pour moi, c'est l'éducation. Donc je me suis dit, aujourd'hui, il faut d'abord amener l'excellence, l'amener, l'accompagner et l'améliorer sur place. Pourquoi? Parce qu'il faut une excellence à la sénégalaise, en fait. Donc l'idée, c'est, et ça rejoint aussi le fait que j'étais curieux concernant tout ce qui était, je ne sais pas si tu as vu passer ça, mais les concours de polytechnique, etc. Je me suis nourri de tout ça, tu vois, parce que c'est des écoles d'excellence, concrètement, tu vois, avec des élèves excellents. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de dire, les études d'excellence existent sur le territoire sénégalais. Moi, la participation que je peux avoir, c'est de les rendre accessibles au plus grand nombre, de donner envie et de rendre accessible. Donc ça, c'est le premier volet qui est interne. une fois que ça s'est fait, c'est de ne pas limiter l'ambition de ces élèves excellents, en fait. Donc, c'était de trouver un endroit propice à leurs ambitions, tout en restant proche des valeurs qui sont les nôtres. Et un pays comme le Qatar, qui partage la même religion et qui est réellement attaché à certaines valeurs qui découlent de cette religion, me semblait être une bonne terre d'accueil pour des études supérieures et des études d'excellence, etc. Tout en sachant que ce n'est pas limitant, puisque le Qatar a déjà amené les grandes universités du monde, qu'elles soient américaines, qu'elles soient françaises, qu'elles soient canadiennes, ce que tu veux. Et la dernière chose, c'est qu'on ne se rend pas compte, et ça, je m'en suis rendu compte en allant au Sénégal, en parlant avec les gens, c'est la puissance des papiers, d'un passeport. Moi, avec mon passeport français, j'ai été habitué à pouvoir voyager partout. Je peux rentrer au Sénégal sans visa. Mais en fait, quand tu ouvres tes yeux, tu te rends compte que le Sénégalais, il ne peut pas. Alors, est-ce que c'est normal, pas normal? C'est une autre discussion, mais là, ça pourrait prendre encore 1 heure de podcast. Mais quoi qu'il en soit, c'est un réel désavantage. C'est un réel désavantage qui n'existe pas au Qatar, puisqu'il n'y a pas besoin de visa pour un Sénégalais. Il est sur un même pied d'égalité administratif. Donc voilà un petit peu la partie éducative de ce que j'aimerais mettre en place. Et ensuite, il y a la partie sportive. L'idée, ce serait, pourquoi pas, d'être une passerelle entre le Sénégal et le Qatar, avec des contrats pour des jeunes joueurs qui auraient déjà le niveau pour jouer au Qatar, qui permettraient de sensiblement changer leur vie et la vie de leur famille. Et comme le Sénégal, c'est une société qui est beaucoup plus communautaire qu'en France, ben en fait, quand tu réussis, tu te rends compte que ce n'est pas juste une famille qui en bénéficie. C'est beaucoup de gens. Tu vois? Donc, tu as un impact sur le développement d'un secteur, d'un endroit réel. Accompagné à cette réussite sportive, un accompagnement éducatif. Parce que c'est bien d'avoir une richesse, c'est bien d'avoir des moyens. Mais il faut savoir s'en servir. Là, dans mon vestiaire, il y a un jeune qui vient de commencer son cursus universitaire dans les sciences. Et comme il s'entraîne le soir, il peut faire ses cours toute la journée. Je pense qu'un jeune Sénégalais qui peut vivre de son sport et en même temps continuer de s'instruire, obtenir des diplômes et devenir un vrai homme accompli, tu vois. C'est trop intéressant. C'est trop, trop intéressant, tu vois. Tu as un petit peu le spectre de ce que je veux faire. Donc, c'est sport et éducation.
Moi, j'ai une question à te poser. En quoi cet objectif et que tu as concrétisé dans ton contrat, voilà, ce volet social et associatif, voilà, ça dépasse en fait ta carrière de footballeur aujourd'hui. À quel point tu rentres dans une nouvelle phase de ta vie où encore une fois, redonner, notamment au Sénégal, devient le plus important pour toi?
Au début, tu veux toujours réussir pour toi-même, te sortir de certaines situations, t'élever. Tu veux quelque chose pour toi. Souvent, c'est à travers ben, la réussite financière que tu vas l'obtenir. En tout cas, quand on parle du professionnel. La question est, une fois que tu as le financier, c'est quoi l'objectif? À partir du moment où tu l'as, est-ce que tu continues à courir après le financier coûte que coûte et finalement c'est la course aux richesses, mais dans quel but? In fine, c'est quelle place tu donnes à l'argent? Moi, je considère que c'est un outil, l'argent. C'est un outil d'échange. Mais tu l'échanges contre quoi? Tu sais, à un moment donné, bah, tu as largement assez à manger, tu as largement assez pour te loger, tu as largement assez pour te vêtir, tu as largement assez pour tes plaisirs et ceux de ta famille, t'as assez. Et c'est là que tu commences à, en tout cas, pour ma part, c'est ce qui s'est passé, à te dire, en fait, il faut que je fasse des choses qui me dépassent. Comment faire pour que ça me dépasse? Ben, en vrai, c'est en impactant la vie d'autres gens. Ça me dépasse moi, mais finalement, j'en retire beaucoup plus en termes d'accomplissement de soi, en termes de fierté, en termes de... C'est inimaginable. Et c'est dur à expliquer à quelqu'un qui n'est pas encore à ce stade-là de sa vie. Parce qu'en vrai, quand tu sais, quand tu es dans ton rush, tu es tête baissée et il faut passer par là. Mais est-ce que tu cours toute ta vie derrière de l'argent pour de l'argent? Est-ce que ça fait réellement sens? Toujours. Je suis pas sûr. Et le matérialisme à outrance et l'excès dans tout est, selon moi, très, très négatif. Très, très négatif et tu peux te perdre toi-même, tu vois. Et c'est aussi dans mon intérêt personnel et dans mon bien-être personnel, en fait. Tu vois? C'est-à-dire que certes, je le fais en espérant aider autrui, mais la réalité, c'est que je m'aide aussi moi-même en faisant ça. Et je donne un sens à ma vie et à mes actes et à mon travail et à tout ce que, tu vois.
En tout cas, toi, t'as pas peur de faire pendant la carrière. Beaucoup ont des envies aussi, mais comme tu disais tout à l'heure, sont un peu happés par le foot et le rush du foot aussi, hein, parce que c'est pas une vie, c'est une vie à 100 à l'heure, j'imagine. Toi, c'est pas quelque chose qui t'effraie c'est même quelque chose que tu essayes de faire depuis déjà quelques années, de construire l'après pendant la carrière.
Parce que je ne considère pas forcément que c'est un après. Je pense que c'est une continuité et l'un ne va pas forcément empiéter sur l'autre, tu vois. L'un ne va pas forcément empiéter sur l'autre. J'ai écrit un livre, je l'ai marketé, et je suis allé gagner une CAN. Ça donne encore plus de matière aux deux. Donc non, l'un n'empiète pas sur l'autre tant que tu es bien organisé, que tu sais où tu vas et que tu ne te perds pas dans des choses qui seraient futiles et inutiles et tout ce que tu veux, tu vois. C'est comme ça que je le vois. Et souvent, il y a beaucoup de joueurs aussi qui se limitent de par le regard des gens.
Ok.
Ouais, non, t'es footballeur, faut pas que tu fasses ça, concentre-toi sur ça. Et avant, j'allais à l'école et je jouais au foot. Est-ce que ça m'a empêché de devenir pro? Tu sais, quand j'ai commencé avec les pros à Monaco, bah, je passais mon bac. Est-ce que j'étais moins concentré sur le terrain? Non. Pourquoi maintenant que je ne suis plus à l'école, il faut que ma vie tourne autour que de ça? Évidemment que c'est un métier prenant, évidemment que c'est un métier physique, évidemment qu'il y a des... Même la préparation invisible est importante. Mais à partir du moment où tu es conscient de ça, que tu travailles en conséquence, si tu as du temps en plus à dégager et que ça te fait même du bien, pourquoi se limiter? Moi, j'ai ma petite théorie. C'est que ça arrange tout le monde d'avoir des joueurs stupides qui ne se soucient de rien parce qu'ils sont malléables. Mais après, on en
J'ai
fera
la
un autre
même.
podcast si tu veux. On en fera un autre podcast si tu veux.
J'ai la même. Bah, on en
Mais,
fera un sur ce sujet-là parce que je pense que je peux t'aider et aller peut-être aussi dans ce sens-là par rapport à mon expérience du centre de formation. Ouais.
Ah ben voilà, ben magnifique.
On a le deuxième
On a un
sujet.
rendez-vous de prix. C'est ça.
Yes. Bah écoute, Abdou, être plus qu'un footballeur, j'ai bien compris que c'était le mindset. De toute façon, ça l'est depuis déjà plusieurs années. Que merci pour tes
Yes.
confidences et merci pour tes
Merci à toi.
explications. J'ai hâte de voir ce que vont donner tous ces nouveaux projets et puis et te voir réussir dans l'obtention de tes diplômes. Tu retournes à l'école. En tout cas,
Eh
je te souhaite
ouais.
beaucoup de réussite dans ton nouveau club. Et on se retrouve
Ok,
bientôt
merci.
pour un nouveau podcast.
Merci, merci au top. Prends soin de
Yes.
toi. Et puis je te laisse, faut pas que je sois en retard à mon autre travail.
Ça
Allez,
marche. Allez, à la prochaine.
ciao.
C'est la fin de ce premier podcast. N'hésitez pas à suivre la chaîne Azak pour écouter les prochains épisodes de Dialo. N'hésitez pas non plus à partager, aimer et commenter. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast avec Abdou.